Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Cannes, le 9 juillet dernier. Au troisième jour du festival, le nouveau film du réalisateur néerlandais Paul Verhoeven embrase la croisette. Dans Benedetta, il plonge le spectateur dans la Toscane du XVIIe siècle et raconte l'histoire sulfureuse d'une nonne interprétée par Virginie Efira. Au couvent italien de Pescia, la sœur Benedetta est en proie à des visions mystiques. Mais la nuit venue, dans l'ombre de sa cellule, elle est dévorée par la passion de sa fille qui la lie à la jeune sœur Bartholoméa.
C'est Jésus qui m'a fait ça.
Les stigmates.
Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur.
Santa Benedetta.
Benedetta.
Vous me trouvez trop prompt à croire à ce miracle?
Je pense que vous n'y croyez pas du tout.
Film scandaleux, dérangeant et provocateur, Benedetta ne laisse personne indifférent. Mais derrière la fiction de Verhoeven se cache l'histoire vraie et non moins sulfureuse d'une nonne condamnée pour pratiques impudiques. Cette histoire, c'est l'historienne américaine Judith Sieg Brown qui l'a exhumée en 1978. Cette année-là, elle parcourt les archives d'État de Florence et tombe sur un dossier jamais ouvert. Les documents qu'il contient permettent de retracer la vie et le procès d'une religieuse toscane. Son nom, Benedetta Carlini. L'Américaine publie un livre « Sœur Benedetta entre sainte et lesbienne ». Et voilà ce qu'elle nous raconte. Benedetta Carlini naît en 1590 dans le village perché de Velano, au cœur des montagnes toscanes. Mais alors que sa mère ressent les premières douleurs de l'accouchement, les choses tournent mal. On annonce à Giuliano Carlini que la mère et l'enfant pourraient ne pas y survivre. L'homme est très pieux, il en appelle à la bonté divine et fait une promesse à Dieu. Si son épouse et leur nourrisson sont épargnés, l'enfant à naître vouera son existence au Seigneur. Quand Benedetta pousse son premier cri, sa vie est toute tracée. Elle deviendra religieuse. À l'âge de 9 ans, par une belle journée de printemps, Benedetta embrasse le destin qui lui était promis. Elle intègre le couvent des Théatines, situé en contrebas dans le village voisin de Pescia. La fillette revêt la coiffe blanche et grandit entre prières, jeûnes et travaux divers, jusqu'au jour où, âgée de 23 ans, Benedetta demande à s'entretenir avec la mère supérieure. Elle veut lui révéler des faits qui pourraient bouleverser l'ordre du couvent. La jeune sœur a des visions mystiques. Un matin, comme tous les autres, alors qu'elle s'astreignait à la prière avec ses sœurs, Benedetta s'est trouvée d'un coup au milieu d'un magnifique jardin regorgeant de fruits juteux et d'arbres fleuris. Non loin d'elle, une fontaine libérait une eau délicatement parfumée et juste à côté se trouvait un bel ange qui lui a soufflé quelques mots. Devant la mine ébahie de la mère supérieure, Benedetta poursuit ses révélations. Des visions, elle en a eu d'autres. Plongée dans ses travaux quotidiens, voilà qu'elle s'est vue entourée d'une foule d'animaux sauvages, des lions, des scorpions et des sangliers qui menaçaient de lui faire du mal. Ces bêtes enragées, c'était l'incarnation du démon. Mais fort heureusement, continue Benedetta, un homme est venu la tirer de leurs griffes acérées. Cet homme, c'était lui, Jésus-Christ. Benedetta serait-elle en train d'affabuler pour attirer l'attention des sœurs? Si les visions sont réelles, sont-elles d'origine céleste ou bien est-ce le mal qui ronge la jeune femme? Bientôt, les religieuses sont témoins des états de transe dans lesquels Benedetta semble plonger à l'heure de la prière. Elle gesticule, prononce des phrases incompréhensibles et les visions continuent. Elle s'accompagne peu à peu de douleurs atroces qui clouent au lit la pauvre religieuse. La nuit, quand les hallucinations la prennent, elle prétend que de jeunes garçons la poursuivent en brandissant des épées et des chaînes. Alors Benedetta hurle « au secours !» brisant la tranquillité du couvent et terrifiant les nonnes. Cette situation inquiète la mère supérieure. Décision est prise que l'on assignera à Benedetta une compagne de cellule qui veillera sur elle. C'est la toute jeune Bartolomea Crivelli qui est choisie. Et voilà qu'une nuit, Mea, c'est son surnom, est réveillée par Benedetta. Dans la pénombre, elle la voit s'agiter, parler à quelqu'un. Mea comprend que la sœur est en train de s'adresser au Christ et qu'il lui répond. Bientôt, Benedetta pousse des cris de douleur qui glacent le sang de sa compagne. Mais aux premières heures du jour, on annonce un grand miracle. Les mains, les pieds, les côtes ensanglantées de Benedetta portent les stigmates de Jésus-Christ. Elle souffre des mêmes blessures que lui, celle qu'il a reçue sur la croix. Cette fois-ci, il n'y a plus de doute. Benedetta est l'élu de Dieu et par là même la vedette du petit couvent de Pescia. D'ailleurs, est-ce grâce à elle que la petite ville a été épargnée par l'épidémie de peste bubonique qui ravage l'Italie ? L'élu fait figure de protection et elle force le respect. À 30 ans, Benedetta est désignée abbesse du couvent. Elle s'exprime publiquement sur les questions religieuses, un fait extrêmement rare pour les femmes à qui l'on impose le silence en ce domaine. Mais cette influence grandissante lui joue bientôt des tours. On ne voit jamais d'un bon œil qu'une femme établisse une connexion immédiate avec le ciel sans aucun médiateur masculin. Une enquête est diligentée à son encontre et la voilà démise de ses fonctions d'abbesse jusqu'à nouvel ordre. Jésus l'a-t-il vraiment désignée comme son plus grand serviteur sur terre, comme elle l'affirme à longueur de journée ? Les autorités ecclésiastiques veulent en avoir le cœur net. Le prévôt Secchi est nommé investigateur en chef. Pendant 4 mois, il mène des interrogatoires, recueille le témoignage des théatines, demande à examiner les blessures de Benedetta. Mais aucun indice ne lui permet de remettre en doute sa parole. Benedetta conserve sa toute-puissance. Pourtant, de nouveaux éléments viendront bientôt décrédibiliser la parole de la nonne. Il y a de l'eau dans le gaz au couvent de Pescia. L'abbesse Benedetta est de plus en plus autoritaire. Elle édicte des règles strictes et multiplie les avertissements contre certaines sœurs trop ingrates et vaniteuses à son goût. Et Benedetta les met en garde. Si les sœurs doivent être punies, elle n'a qu'à implorer Jésus et Garel. Tout cela suscite l'hostilité des théatines qui affirment qu'elles feront élire une nouvelle abbesse. Au-delà des murs du couvent, la toute-puissance de Benedetta déplaît toujours plus aux autorités ecclésiastiques. Les questionnements reprennent sur l'origine de ces visions, si bien qu'on décide de mener une seconde enquête. Tour à tour, les religieuses de Pescia sont interrogées une nouvelle fois. Et quand vient le tour de la jeune Bartholoméa qui partage sa cellule, les enquêteurs tombent des nues. Ces révélations, personne ne s'y attendait. La jeune sœur raconte que l'abbesse la force à faire certaines choses. Des choses impudiques. Benedetta aurait violé son vœu de chasteté. Depuis 2 ans, à la nuit tombée, Benedetta attire Bartholoméa dans sa couche.
Dites-nous en plus, Stéphane.
Non, je ne peux pas. Pour s'adonner à des plaisirs impurs et lui dire des mots d'amour. Et ce n'est pas tout. La journée, quand l'abbesse attire la sœur dans son cabinet de travail en prétextant qu'elle lui apprendra à lire, elle satisfait en fait ses mêmes désirs saphiques. Face à l'ampleur des révélations, même le scribe en perd ses moyens. Son écriture, si nette d'habitude, est totalement illisible. Il doit s'y reprendre à plusieurs fois pour retranscrire les obscénités que la jeune sœur relate. Confrontée aux accusations qui pleuvent, Benedetta nie en bloc. Elle assure que ce n'est pas elle qui pervertit la jeune Méa. Non, c'est l'ange Splenditello qui prend possession de son corps pour se livrer à la luxure. Splenditello, c'est l'ange gardien que le Christ lui a attribué. Un très beau garçon qui, dit-elle, lui caresse le corps avec des fleurs si elle agit conformément à la volonté de Jésus, mais la pique avec des épines en cas d'égarement. À l'issue de l'enquête, Benedetta Carlini est emprisonnée dans les murs du couvent. Pendant 35 ans, elle est tenue à l'écart des autres religieuses et s'éteint à l'âge de 71 ans, terrassée par la maladie. Son histoire aurait pu finir dans les oubliettes de l'histoire, mais le cinéma et le talent de Virginie Efira qui l'interprète en a heureusement décidé autrement.
Europe 1, historiquement vôtre.